Vous êtes sur RTL. 14h30, 15h30.
On est fait pour s'entendre.
Avec Flavie Flamand sur RTL.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé un doux week-end, que vous allez bien ce lundi au soleil. Merci d'être avec nous sur RTL, mais également sur l'application RTL ou encore RTL.fr où vous pouvez allier l'image au son pendant que vous entendez peut-être Pascal Praud quitter ce studio, donc en chantant. Une semaine dense et variée s'annonce. On interrogera l'amour mercredi. Sommes-nous vraiment faits pour être en couple? Jeudi, on se demandera si nous avons basculé progressivement ces derniers temps dans la société de la délation dans laquelle on balance et on dénonce. Et puis vendredi, on décryptera notre rapport à la lecture qui semble en voie de disparition. Lire un livre est-il devenu aujourd'hui has-been ? Mais pour l'heure et jusqu'à 15h30 sur RTL. Vous avez forcément vu Catherine Deneuve révéler sa passion pour les figurines de poule dans une récente pub télévisée. Comme elle, près de 80% des Français ont déjà collectionné des objets au cours de leur vie et près de 40% s'y adonnent toujours. Le vrai collectionneur est davantage intéressé par la quête que par la possession, selon Umberto Eco. Et vous, que collectionnez-vous justement? Quel plaisir retirez-vous de cette activité? Qu'est-ce que ça dit de nous? Jusqu'où une collection peut-elle nous emmener? On en parle avec nos invités que je vais accueillir dans un instant, mais également avec Eric qui est en ligne avec nous. Bonjour Eric.
Bonjour Flavie.
Soyez le bienvenu sur RTL, merci d'être avec nous Eric. Vous avez 56 ans, vous habitez Lyon, vous êtes commercial, vous travaillez dans une régie publicitaire du journal Le Progrès à Lyon et vous êtes un collectionneur. Alors là, ça me fascine de...
Ah bon ?
Ouais, je trouve
de
ça génial.
De poupées Barbie.
Un collectionneur de poupées Barbie. Alors voilà. Là, je trouve ça génial. Ça fait longtemps que vous collectionnez les poupées Barbie ?
Eh ben, j'ai fêté cette année mes 25 ans de collection.
Ok, vous en avez combien comme ça des Barbies à la maison?
Alors, je ne suis pas celui qui en a le plus, hein, parce que voilà, on parle entre nous, j'en ai à peu près 400.
D'accord.
Mais uniquement les modèles qui vont de la première Barbie jusqu'aux années 70.
Mais dites-moi, elle est vieille Barbie là?
Elle a quel âge? Oui, mais elle ne fait pas son âge, elle a 62 ans.
D'accord, ok.
Et cette année, c'est les 60 ans de son chéri de Ken.
Ah, alors, vous voyez, par exemple, moi, je jouais à la Barbie, mais c'est vrai que j'avais un peu toute la smala. J'avais Ken, je crois qu'il y avait une petite sœur, enfin bon.
Oui, Skipper, la petite sœur, c'est Skipper.
Très bien. Alors, qu'est-ce qui vous a fait tomber en amour pour Barbie? Pourquoi est-ce que vous avez plus collectionné Barbie que Ken, par exemple?
Ah non, bah parce que j'en ai des Ken, hein, mais c'est vrai que pour les collectionneurs comme pour les petites filles, Ken, c'est un peu l'accessoire, quoi. On va mettre un beau Ken à côté d'une belle Barbie mariée, mais voilà. Comme pour les petites filles, Ken, il va emmener Barbie danser et voilà.
D'accord, ok. Ken est à dispo, quoi. Hein,
voilà.
Qu'est-ce qu'elles ont de si particulier? Comment est-ce que vous êtes tombée, justement, dans la collection? Racontez-nous un petit peu ce coup de foudre que vous avez eu.
Alors, je pense que quand on collectionne les jouets, il y a quand même un attrait par rapport à l'enfance. Ouais. Et moi, quand j'étais enfant, je jouais avec un Action Man. Et ma tante Nicole avait une Barbie des années 60 qu'elle me prêtait. Et du coup, ça devenait la femme de mon Action Man.
D'accord.
Alors, bon, ça, c'est quand j'étais enfant. Après, j'ai grandi, bien évidemment. Et puis, un jour, je suis allé à une exposition au musée de la poupée à Paris, qui faisait une rétrospective sur les 10 premières années de Barbie. Et je suis tombé sur la Barbie de ma tante Nicole, quoi. Je fais « Ah !» Voilà. Et donc, du coup, je suis allé en acheter une. Et voilà, après j'ai acheté des livres et j'ai vu qu'il y en avait plein d'autres. Et c'est comme ça qu'a commencé la collection.
En fait, une collection, on le verra avec nos invités, mais ça commence à partir de deux exemplaires, quoi. Hein. C'est quand on est dans une quête. Est-ce que c'est ça aussi? Est-ce que c'est la chasse de la Barbie rare qui vous motive?
Alors, il y a deux choses. Il y a la Barbie rare en elle-même. Et puis, si c'est le succès de cette poupée, c'est tous les petits accessoires.
Ouais.
Et des fois, on va trouver la poupée avec une tenue, mais il va manquer les chaussures, il va manquer le sac, le collier. Et moi, c'est vrai que des fois, je vais dans des brocantes, dans des vide-greniers, et je fouille parce que je vais peut-être trouver les accessoires qui manquent à une tenue.
D'ailleurs, on va pouvoir faire passer un petit message. Il y a une pièce là que vous cherchez désespérément ou pas? Parce que ça va passer sur RTL, on ne sait jamais.
Ah oui, bah, il y a toujours plein de pièces que je recherche. C'est Barbie des années 60, celles qui on la coupe en boule comme les bubble cuts. Sinon, je cherche un Ken en ce moment.
Ah, et il est comment? Bon, moi aussi, ça m'arrive de chercher un Ken, mais non, c'est peut-être pas le même.
Non, moi, le mien, il est des années 80, par contre.
Ouais.
Et il a une particularité. Dans le dos, il y a marqué « Made in France ». Parce que, en fait, cette poupée, elle a été faite plutôt dans les pays asiatiques.
Ouais, c'est ça.
Une poupée américaine. Mais dans les années 80, pour faire de la publicité au niveau du jouet, il fallait que le jouet soit fabriqué en France. Et donc, il y a eu quelques rares modèles qui ont été fabriqués justement près de Lyon, à Oyonnax. Et c'est des modèles qui sont marqués Made in France. Donc là, moi, je cherche le thème cérémonie avec marqué Made in France dans le dos.
Et c'est intéressant ce que vous parlez du Ken Ceremony. C'est vrai que les Barbie ont tout un univers. Et j'imagine donc que vous devez avoir la voiture, le camping-car. En plus, c'était un petit peu les moyens de locomotion de Barbie sont dingues, hein, parce que Barbie n'a pas de problème d'argent. Hein. Barbie, elle a des yachts, elle a autant de boutiques de mode qu'elle veut, de sacs à main et de paires de chaussures. Vous avez cherché des thèmes en particulier. C'est ça aussi qui vous a intéressé dans la
collection. Oui, alors moi, ce que j'aime avec ce jouet, c'est qu'on suit vraiment l'évolution de la femme, déjà de la mode,
mais c'est vrai,
et aussi
ça.
De la place de la femme.
Ouais,
c'est-à-dire qu'au début des années 60, peu de femmes travaillaient. Et donc là, Barbie, par exemple, elle va quand même être infirmière quand Ken est médecin. Elle va être hôtesse de l'air quand Ken est pilote. Alors que maintenant, c'est amusant, vous avez la Barbie, un coffret avec la Barbie pilote de ligne et Ken est steward.
Ouais, vous avez raison en fait. À travers nos Barbies, on voit passer des décennies la société, la place de la femme dans la société.
Et d'ailleurs, les Barbies dans les années 60, elles sont habillées comme Marilyn Monroe. Dans les années 70, on croirait qu'elle revient de Woodstock.
Mais
dans les années 80, c'est les filles dans Dallas avec, vous savez, les vestes
le
avec les grandes épaulettes.
Ouais, je vois très
et
bien.
Les gros brushings, oui, c'est ça. On suit vraiment la mode et la place de la femme.
Alors, vous voyez, vous avez rendu la Barbie encore plus passionnante qu'elle ne l'est pour les petites filles en nous en parlant. On va se retrouver dans un instant, Eric, sur l'antenne d'RTL. Ensuite, on accueillera nos invités, ok?
D'accord.
Et vous allez nous expliquer comment votre entourage réagit, effectivement, quand vous dites que vous êtes collectionneur à 56 ans de poupées Barbie.
Oui, c'est pas toujours évident.
À tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL. Sur RTL
jusqu'à 15h30.
Eric est notre invité aujourd'hui. On est ensemble jusqu'à 15h30 pour parler de la folie de la collection. C'est vrai que c'est Catherine Deneuve qui nous écoute fidèlement. C'est Catherine Deneuve qui nous a donné l'idée de faire cette émission lorsqu'elle s'est illustrée dans une pub télévisée dernièrement en expliquant qu'elle avait une passion pour les figurines de poules et qu'elle les collectionnait. Et effectivement, on se rend compte que c'est un véritable phénomène chez les Français. On reviendra plus en détail dans un instant avec nos invités. Mais pour l'heure, donc, Eric est un grand collectionneur de poupées Barbie. Il a 56 ans. En fait, vous nous parlez de la Barbie d'une façon totalement inédite, hyper intéressante, puisqu'on a l'impression que grâce à la poupée Barbie, on peut faire une sorte d'étude sociologique, finalement.
C'est
très, très intéressant et vous en parlez avec beaucoup de passion. alors évidemment, un homme de 56 ans qui enferme des poupées dans des vitrines à l'abri de la poussière, il y a un petit côté, parce qu'on verra, est-ce que la collection est un peu has-been ? Est-ce que c'est toujours réservé à des petites vitrines auxquelles il ne faut pas toucher ? C'est toujours ça pose question. Comment est-ce que votre entourage a-t-il réagi lorsque vous avez commencé cette collection ?
Écoutez, étonnamment, plutôt bien. Enfin, mes parents, je m'attendais à ce qu'ils foutent de moi, mais non.
Ouais.
Et puis, c'est vrai que vous dites que j'ai une façon de parler de ma collection qui est plutôt sympa. Donc, en général, tous mes amis, ils aiment bien. D'ailleurs, ils me disent alors, montre-nous la dernière, etc. Mais c'est vrai aussi que lors de soirées avec des gens que je connais moins, quand je parle de ma collection, je m'aperçois très vite quand les gens sont intéressés ou quand ils essayent de me faire jouer le rôle du con dans le dîner de con.
C'est marrant que vous parliez de ça, le con dans le dîner de con. Jacques Villeray, évidemment. On va l'écouter dans un instant parce que Jacques Villeray, il faisait une collection de maquettes. Et d'ailleurs, de maquettes faites en allumettes que lui-même créait dans le film. Et on a extrait justement un voyage en train où on l'écoute parler de sa passion. Écoutez.
Je suis désolé, elle est tombée quand j'ai sorti mon dossier.
Je vous en prie.
Vous avez sûrement reconnu la tour Eiffel. Entièrement faite avec des allumettes, 346 422 exactement. C'est une de mes plus belles pièces.
Ah bon ?
Si l'angle entre les allumettes n'est pas calculé au dixième de degré, c'est foutu. À un dixième de degré près, vous rendez compte ? Et maintenant, une petite colle juste pour rire.
On est arrivé.
Qu'est-ce qui m'a donné le plus de mal d'après vous ? La tour Eiffel ou Concorde ?
On est arrivé.
Ah oui, déjà, on n'a pas vu le temps passer, dis donc.
Alors, évidemment, le dîner de cons, 1998, film de Francis Weber. Est-ce que Éric Chatillon, le collectionneur, est parfois un peu auto-centré et un peu chiant ?
Alors, il faut faire attention à ça. C'est pour ça qu'il y a des conventions, on va se retrouver entre nous.
Ouais.
Parce que même l'entourage, même qu'ils aiment bien, même qu'ils nous comprennent et qu'ils nous adorent, au bout d'un moment, on se rend compte qu'on gave vite. Mais d'un autre côté, moi, je sais que j'en parle pas mal, notamment dans des soirées où je connais pas grand monde. dès que je vois une femme qui a à peu près l'âge d'avoir eu des Barbies qui m'intéressent, je vais faire exprès de rentrer, de parler de Barbie, de faire rentrer Barbie dans la conversation en me disant avec un peu de chance, elle va me dire j'en ai une, si vous voulez, je vous la donne, je vous la vends, etc.
Tu perds pas le nord du tout, quoi.
Ah bah, non, d'ailleurs, d'ailleurs, j'en parle même à mes stagiaires, parce que je me dis peut-être que ta grand-mère a des Barbies. J'en parle vraiment à tout le monde. Hein. Et j'ai comme ça récupéré des belles, belles pièces, grâce à des stagiaires, grâce à des collègues, grâce à des gens rencontrés en soirée.
Et ça peut mener où, jusqu'où, la passion de la collection? Est-ce que ça coûte de l'argent? Est-ce qu'on peut se ruiner?
Alors, moi, j'ai toujours fait attention. Voilà, mais après c'est vrai qu'on peut vite se ruiner parce que quand on cherche une pièce ancienne, on va pas, c'est pas comme si on allait au magasin en disant tiens je vais l'acheter ou j'achèterai le mois prochain. On est obligé de l'acheter tout de suite parce que moi ça m'est arrivé de ne pas acheter une pièce ancienne qui m'intéressait et de ne la retrouver que peut-être 5 ans après. Donc c'est vrai que des fois on est obligé d'acheter plusieurs pièces rares.
Mais ça coûte combien? Ça coûte combien une belle poupée Barbie?
Alors bah écoutez, ancienne. ça va de 50 € à peu près. Et puis ça peut monter beaucoup beaucoup plus cher si elle est encore dans sa boîte, si c'est un modèle ultra rare vendu que quelques mois aux États-Unis. Voilà, mais à partir de 50 €, on peut se faire plaisir.
Et après, ça peut aller jusqu'à plusieurs milliers d'euros?
Plusieurs milliers d'euros, oui, mais vraiment dans des cas extrêmes, extrêmes.
D'accord, ok, mais enfin bon, ça peut aller jusqu'à plusieurs centaines d'euros, donc c'est un gros budget.
Plusieurs centaines, oui.
Donc c'est un gros budget.
Si on en achète beaucoup, oui.
Sans compter les déplacements, enfin bon, peut-être qu'on vous les envoie,
mais c'est une pièce. Il n'y a pas longtemps, je suis allé en Belgique juste pour un vêtement de Barbie.
Ok, d'accord. Donc tout ça, c'est un vrai budget, il faut faire attention.
Oui, oui, oui. Mais c'est ça. Quand on est enfant, on vous dit non, tu n'auras pas ton jouet car ça coûte trop cher. Et quand on veut un jouet et qu'on est adulte, eh ben, il n'y a pas de limite.
Bon, et ça vous est arrivé de vous mettre un peu dans le rouge?
Personnellement, non.
D'accord. Ok.
Non, parce qu'il faut que quand je regarde ma poupée, ce soit un sentiment de plaisir et non pas un sentiment de frustration en me disant cette poupée-là, elle m'a obligé à bouffer des pâtes pendant 6 mois. Quoi.
D'accord, faut pas charrier quoi quand même. Elle est sympa Barbie, mais faut pas pousser quoi.
Faut que ça reste un plaisir.
Bon,
voilà.
Dans un instant, vous restez avec nous, Eric. Je vous présente Xavier Bonny, qui est directeur. On l'a connu rédacteur en chef de Collectionneur Chineur, c'est sa spécialité. Hein, évidemment, on y reviendra dans un instant. Et puis Jean-Philippe Dubulle, qui est directeur d'études à l'IFOP et qui pourra justement nous donner des chiffres sur cette passion. Et on verra si c'est une passion bien française. À tout de suite.
Xavier Flamand sur RTL. RTL
jusqu'à 15h30.
On parle des collectionneurs aujourd'hui, peut-être en faites-vous partie. Benoît, passionné de radio et de la première radio privée de France. J'ai plus de 900 pubs d'RTL et j'ai près de 2700 autocollants. Bah dis donc, c'est génial ça Benoît. Si vous voulez nous envoyer des photos sur les réseaux sociaux dont on est fait pour s'entendre, ça nous fera plaisir. Je suis collectionneur de livres de foot, j'ai 650 bouquins environ, nous écrit Hervé, et de magazines de foot, près de 3000. Hervé, si vous voulez nous appeler pour nous dire comment réagit votre compagnon ou votre épouse, je ne sais pas, parce que vivre au milieu des bouquins de foot et des magazines de foot, c'est quand même quelque chose. Parce que bien évidemment, la collection, ça a des conséquences heureuses et parfois plus compliquées. On en parle avec Eric, qui est donc un collectionneur de poupées Barbie, et avec Xavier Bonny. Bonjour Xavier Bonny.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes directeur de la production éditoriale et événementielle des éditions LVA, et on vous a connu déjà reçu en tant que rédacteur en chef de Collectionneur Chineur. Vous connaissiez des profils comme celui de notre invité Eric?
Oui, Eric, je connais bien puisqu'il est passé plusieurs fois dans les colonnes de Collectionneurs et Chineurs.
Ah oui.
C'est un des plus grands collectionneurs de poupées Barbie, sûrement le plus grand en France.
Mais il nous donne envie de collectionner les Barbies,
mais parce
donc.
Qu'il, justement, quand il transmet sa collection, et c'est ça aussi le collectionneur, c'est savoir transmettre sa passion. Et Eric l'a fait très bien, et le fait très bien depuis de très nombreuses années. Ouais.
Alors, est-ce que c'est une véritable passion française? Est-ce que c'est un phénomène? On en parle également avec Jean-Philippe Dubulle. Bonjour, soyez le bienvenu.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes directeur d'études à l'IFOP. Ils disent quoi les chiffres sur les collections en France?
Ils disent tout simplement que la collection en France est un phénomène d'abord massif. Massif parce qu'il y a 79% des gens, donc environ 79% des gens qui ont au moins un jour, dans le passé, collectionner quelque chose, collectionner un type d'objet. Alors, ça peut être les fèves dans les galettes, ça peut être plein de choses.
Commencer par des petits trucs, quoi, en général.
Plein de petites choses, et puis monter, escalader les objets, leur prix, leur volume. Donc ça, c'est ceux qui ont collectionné un jour, c'est 4 Français sur 5, tout simplement. Et ceux qui collectionnent encore aujourd'hui, qui ont cette activité, c'est 39%, c'est 2 sur 5. Donc il y a ce côté massif que quand vous allez dans la rue, il y a 2 personnes sur 5
qu'on croise et qui
font une collection en ce moment de quelque chose.
Ça commence à quoi, une collection à deux exemplaires, en fait, en réalité, Xavier Bonny ?
Alors oui, une collection, c'est un rassemblement d'objets. Mais il faut distinguer, on va dire, ce qui est collection d'objets et collection d'auto ou de moto, par exemple. Un collectionneur de voitures peut avoir une seule voiture ancienne. La moto,
parce
c'est
que
pareil.
C'est un objet de collection.
Voilà, c'est un objet de collection. Là, on est sur, effectivement, un rassemblement de plusieurs objets qui en font une entité et bah, qui racontent une histoire aussi.
Mmh, mmh. Et c'est ce qu'on entend à travers votre collection, Éric Chatillon. Est-ce qu'il est des collections un peu honteuses, Jean-Philippe Dubulet ? Est-ce que c'est bien assumé, la collection en France ?
Alors globalement, oui. Ce qu'on aurait pu croire en repensant, on en a parlé tout à l'heure, du dîner de cons, il y a cette image qui a été véhiculée par ce film et qui existait par ailleurs, du collectionneur un peu lourd, qui a des passions pas forcément, enfin, au demeurant pas très intéressantes, un peu ridicules, etc. Et donc on aurait pu croire, nous, en faisant ce sondage, voilà, on s'est demandé, tiens, bah, est-ce que les Françaises trouvent qu'aussi, que voilà, c'est ridicule, c'est trivial, etc. Et ben non. Non, c'est pas le cas. Quand on demande alors, aux collectionneurs, à ces fameux 39% de gens qui collectionnent des choses aujourd'hui, on leur demande, est-ce que vous assumez vos collections ? Bah, tout simplement, est-ce que vous avez des problèmes avec différents types de proches, que ce soit la famille ?
Est-ce que vous vous taisez, quoi ? Est-ce que vous planquez votre collection ?
Voilà, est-ce que vous planquez ? Et bien, finalement, pas tant que ça. Il y a que, alors c'est quand même important, mais parmi les collectionneurs actuels, il y en a un tiers, 34%, qui me disent, oui, j'ai déjà eu du mal à assumer ça, que ce soit avec ma famille, comme le disait notre témoin collectionneur de poupées Barbie. Donc voilà, avec ma famille, ou avec, voilà, en draguant, etc., j'ai eu du mal à l'assumer. Mais c'est que un tiers, j'ai envie de dire. C'est finalement que un tiers, alors que si on était resté dans le spectre d'une idée de con, on se dit, mais non, c'est n'importe quoi.
Oui, c'est ça, il faut
Il y a une grande acceptation sociale, finalement, beaucoup plus d'acceptation que ce qu'on pourrait croire.
Xavier Bonny ?
Oui, il ne faut pas oublier non plus que la collection est un certain jardin secret, en fait. C'est-à-dire que des gens se plongent dans cette collection et ne veulent surtout pas
la partager.
Voilà, la partager, peu importe, en fait, le thème. Mais c'est un échappatoire, c'est leur endroit à eux, c'est ce qu'ils aiment faire, c'est ce qu'ils aiment. Et c'est pas parce que la collection est honteuse, mais c'est parce que justement ils veulent que cette passion leur soit totalement propre et surtout pas au regard des autres. Quoi.
Et est-ce que la collection en dit long sur nous ? Si parfois ça, c'est justement du domaine du très intime, est-ce que ça veut dire aussi que en fonction de ce que je collectionne, finalement je livre des informations sur ma personne.
Oui, il y a toujours une part
bien
de ça.
Bien malgré moi, parfois.
Il y a toujours une part de ça. Après, ça peut être aussi de façon hasardeuse. C'est-à-dire qu'on peut très bien collectionner un objet parce que, je ne sais pas, sur le thème des pompiers, et d'avoir 2000 objets sur le thème des pompiers parce qu'on a été pompier. Voilà. Et donc, ça nous a forgé et on a eu envie de continuer sur ce thème-là. Ouais. En revanche, après, ça peut être des rencontres. On n'est pas pompier, on est un autre. Et un jour, on rencontre un objet ou une image, une illustration qui nous plaît et on va dire, on va se lancer dedans. Mmh. Et là, on ne sait pas en fait si ça nous parle ou pas. On se laisse porter par la collection.
Est-ce que vous avez l'impression, Éric Chatillon, que ça veut dire quelque chose de vous, cette collection des poupées Barbie ? Ça dit une part très importante de vous.
Oui. Et d'ailleurs, ce que vous disiez, le fait que c'était quelque chose d'intime, c'est vrai que moi, j'ai une pièce qui leur est dédiée. Et que c'est mon univers, quand des fois au boulot c'est un peu dur, etc. Je suis content le soir de rentrer 5 minutes dans cette pièce, et puis je vais en ressortir. C'est tout à fait ça.
Et tout le monde ne peut pas accéder à cette pièce et accéder aux vitrines dans lesquelles sont vos poupées Barbie.
Alors, quand les gens. Enfin, moi j'aime bien que les gens demandent, parce que c'est vrai qu'une part de moi, quoi.
Ouais, c'est
et
ça.
Si dans une soirée, on ne me demande pas de venir voir ma collection, ou si on ne m'en parle pas, quelque part j'ai l'impression d'être transparent. Et d'ailleurs, je me suis toujours dit que si on me demandait de choisir entre la personne avec qui je vis, mon compagnon, si il me demandait de choisir entre lui ou Barbie, ce serait forcément Barbie parce que ça voudrait dire qu'il ne comprend absolument pas qui je suis et il ne m'accepte pas tel que je suis.
Oui, en même temps, on peut comprendre aussi parfois, alors je ne sais pas quelle est votre vie, mais on peut comprendre aussi parfois, Eric, que la collection puisse prendre beaucoup de place.
Exactement,
dans une vie.
Et c'est tout.
Être dans un savant.
Ah oui, il faut savoir, ben justement, c'est ce que je vous disais, c'est dans ma pièce parce que je le veux, mais j'ai pas envie non plus d'imposer aux
à
gens qui viennent me voir ou les gens qui vivent avec moi d'avoir des Barbies partout. Et même pour moi, ce serait un peu dur d'en avoir partout. Je veux vraiment que ce soit bien mon univers et ma pièce à moi.
Voilà, il y a le savoir-vivre du collectionneur aussi. Hein. Ça, c'est quelque chose d'important. On va y revenir un petit peu plus tard dans cette émission parce qu'on a des témoignages de personnes qui sont envahies par les collections des autres et ça finit par poser de véritables problèmes. Et on parlait de la finance aussi. On a certains qui se ruinent et qui mettent aussi leur foyer en danger à claquer justement malheureusement de l'argent pour ces fameuses collections. Eric, merci beaucoup. Le message est passé pour vos pièces donc de poupées Barbie qui vous manquent. On pensera à ce fameux Ken cérémonie Made in France. Il y a un autre Ken qui va arriver dans ce studio, c'est Olivier Bois pour les informations. Voilà, donc nous on passe par l'info, on se retrouve juste après avec une collectionneuse que vous connaissez peut-être puisque c'est Christine Bravo. À tout de suite sur RTL. Salut Eric.
Flavie Flamand sur
Au revoir,
RTL.
Merci.
Flavie Flamand sur RTL jusqu'à 15h30.
Merci d'être avec nous en direct donc sur RTL pour parler de la collection puisque vous êtes 80% à avoir déjà collectionné quelque chose et 39-40% à toujours collectionner des objets. Dominique, collectionneur d'autographes de personnalités diverses, toujours rencontré réellement, nous précise Dominique, j'en ai près de 300. Et Jérémy, je collectionnais enfant et jeune ado les cartes téléphoniques pour les cabines à la grande époque dans les années 90, j'étais absolument fan. J'avais même un livre avec leur cotation comme un Argus des cartes téléphoniques. Je dois avouer que je me demande rétrospectivement, en étant adulte, puisque j'ai désormais 36 ans, comment j'ai pu autant aimer collectionner les cartes téléphoniques. Cela ne m'intéresse plus du tout aujourd'hui. Xavier Bonny, juste avant d'accueillir Christine Bravo sur cette antenne, la collection démarre bien souvent dans l'enfance.
Ah ben on commence toujours à collectionner des choses sur ses héros préférés. Le timbre est un grand classique, les images. Enfin, oui, effectivement, ça commence beaucoup.
On nous invite à la collection comme un passe-temps, je dirais.
Ouais, voilà, c'est un loisir comme un autre, et puis ça permet de se cultiver, d'apprendre des choses, voilà, et de pas regarder bêtement un écran ou autre, mais va
nous,
au-delà
de ça. Mais nous, à notre époque, il y avait pas les écrans, quoi.
Bah, ça commençait un petit peu, la télévision,
les premiers jeux vidéo.
Ouais. Mais ouais, ça a toujours été. Et puis, dès les débuts des jeux vidéo, des enfants ont gardé leur jeu ou leur console, et aujourd'hui, c'est très recherché d'ailleurs.
Alors, elle n'est plus adolescente, mais bon, c'était hier. Elle est avec nous aujourd'hui et elle continue à collectionner. Bonjour Christine Bravo.
Bonjour.
Ça me fait plaisir de vous entendre. Comment ça va ?
Idem. Je trouve ça très intéressant ce que raconte Xavier Bonny. Parce que je suis exactement dans le cas qu'il a cité tout à l'heure de la collection fortuite. Parce qu'on a vu quelque chose.
Exactement.
Et non pas le côté obsessionnel. Je veux posséder, je veux collectionner, je veux revendre éventuellement un jour. Alors, il a encore raison quand il parle de l'enfance, parce que j'ai eu des collections sporadiques dans l'enfance, des objets publicitaires, vous savez, les porte-clés qu'on balançait sur le Tour de France, des boîtes d'allumettes, parce qu'à l'époque, les boîtes d'allumettes étaient très belles, très originales,
c'est vrai,
standardisées comme maintenant. Et alors, j'avais comme ça des petites collections, des cendriers, mais avec déjà pas mal de pièces, jusqu'à ce que je rencontre la Sainte Vierge.
Alors, la Sainte Vierge qui a tout changé.
J'ai rencontré la Vierge. Je suis la Élisabeth, je suis la Bernadette Soubirous de la collection. Et j'ai rencontré la Vierge, figurez-vous, au Mexique par un ex-voto.
Bah oui, ouais, les ex-voto au Mexique, c'est magnifique.
De la Vierge de Guadalupe. C'est-à-dire cette fameuse Vierge, vous savez, qui a un halo vert autour d'elle. Qui est sublime, qui est la Vierge de l'Amérique centrale et latine. Et il faut savoir que, bien sûr que c'est ruineux, une vraie collection, mais les pays latino-américains ont aussi des marchés aux puces, comme on en a. Et alors là, c'est une mine, parce que c'est une mine de vierges anciennes qui ont été pillées dans les églises, qui ont été démontés par des Mayas ou des Indiens Huichol qui ne voulaient pas de nos idoles et qui les jetaient. Et donc, quand j'ai plongé là-dedans, je me suis transformée en bondieuserie.
C'est génial.
J'ai attaqué le Christ, j'ai attaqué les saints, j'ai attaqué tout ce que je pouvais.
Mais alors, aujourd'hui, que possédez-vous ? Combien de vierges avez-vous ?
Oh, alors, Vierge, Jésus-Christ,
toute la clique, quoi.
Plus de 100.
D'accord.
Mais il faut savoir que je les décline en savonnette, en bougie.
Alors attends là.
Mais oui, quand je suis aux États-Unis et que je tombe sur un gars.
Ah, on a perdu Christine. Bon, alors attends, on vous entend mal, Christine. On, vous êtes là ou pas?
Oui, je suis là.
Ah, super. Quand vous êtes aux États-Unis?
Quand je suis aux États-Unis, vous savez, les petits gadgets,
oui.
C'est-à-dire le savon Jésus lave plus blanc, j'achète.
Ouais, je comprends.
Les pansements Jésus-Christ.
Oh, arrête.
Et oui, je vous promets, il y a Jésus sur des pansements.
Oh, le rêve.
J'en ai pas. J'en ai plein.
Vous m'en apporterez un? Vous montrerez ça à RTL quand vous viendrez aux grosses têtes?
Ah bah oui, bien
attends,
sûr.
C'est génial.
Et puis, la Vierge en cire, sans chandelle, évidemment, puisqu'on ne brûle pas la Vierge.
C'est clair.
Donc, mais maintenant, c'est vrai que je les regarde vraiment, j'en profite vraiment. Et évidemment, je suis rentrée dans l'addiction ruineuse des Vierges du 19e siècle en France. Et là, c'est...
Et j'ai eu l'occasion de voir certaines de vos pièces qui sont absolument magnifiques. Christine, on se retrouve dans un instant avec Jean-Philippe Dubulle et Xavier Bonny sur RTL. À tout de suite.
Xavier Flamand sur RTL. Xavier Flamand sur RTL. Jusqu'à 15h30.
Sylvie nous écrit: fan de Star Wars depuis 77, je collectionne figurines, posters, livres, articles et magazines, CD et vidéos consacrés à la saga et je les affiche sans complexe dans mon salon, en plus des 4 tatouages sur moi. Et dis donc Christine, bravo, où est-ce que vous les mettez vos vierges?
Eh ben, j'en ai une tatouée.
Ah, sans blague?
Oui.
Où ça?
Une petite vierge de Guadeloupe.
J'ai jamais vu celle-là.
Et... Ah bah non, elle est pas visible par tout le monde.
Ah bah oui, d'accord, ceci explique donc cela. Et sinon, alors les 200 autres, elles sont où?
Elles sont dans mon appartement, un peu disposées partout et non pas alignées.
Ah.
Mais c'est tellement beau.
Mais c'est vrai.
Qu'il n'y a pas une personne qui, chez moi, en rentrant, ne va pas inspecter les vierges une par une. Mais j'en mets aussi beaucoup dans un espace privé parce que je ne peux pas toutes les exposer, mais je les change. Et j'avais juste une question à vous poser, à vous, Flavie, et peut-être à Xavier Bonny. Mon père, ayant été un républicain espagnol anticlérical, il n'a pas voulu se marier à l'église. Et il doit se retourner dans sa tombe. Le pauvre, il est mort aujourd'hui, d'ailleurs. Enfin, c'est l'anniversaire de sa mort depuis 10 ans. Est-ce que... Parce que parfois, j'y pense à ça. Je me dis, mais comment, dans une famille de républicains qui se sont battus contre Franco et les curés, je peux, avoir autant d'affection?
Oui. J'entends.
Pour les objets saints.
Alors, je vais demander à Xavier Bonny, est-ce que parfois aussi on s'affranchit, je dirais, d'une façon ou d'une autre, ou à travers la collection?
Ah, mais c'est aussi...
C'est pas mal, ça vous va, ça, Christine, comme réflexe? Non, mais c'est vrai, est-ce que parfois c'est une façon
c'est aussi
de marquer
des rencontres? C'est-à-dire, souvent, des rencontres vont changer le cours d'une vie, et c'est exactement la même chose dans une collection. Et là, une collection peut changer le cours d'une vie ou une façon de voir les choses. Il n'y a pas forcément du religieux derrière, je pense, derrière la collection de Christine.
Non,
bravo.
Non.
En revanche, on est tombé amoureux d'un objet, de ce qu'il peut représenter, mais en tout cas de l'objet et de son histoire. C'est
en
ça
tout cas,
l'intérêt.
Christine, je ne sais pas s'il y en a sur vos bateaux, mais on a hâte de les découvrir. Hein, parce que
Vous viendrez, vous serez
ajoutés.
Je suis armatrice maintenant sur la Seine.
Alors,
sur la Seine, sur mon bateau, il y a
le
des objets religieux.
Voilà, le froufrou.
Merci beaucoup.
Et c'était un plaisir, Christine. Je vous embrasse.
Idem.
On vous retrouve aux grosses têtes. Il y a les croisières
tout
sur la Seine, sur froufrou. Exactement. Bah là, je vais vous filer le relais après. Et on retrouvera des croisières historiques bientôt, des croisières historiques gastronomiques avec un chef, Serge Alzéran. Enfin bon, bref, on viendra se régaler. Ce sera
merci,
super.
Flavie.
On a hâte. Je vous embrasse. Salut, Christine. À bientôt.
Au revoir.
Alors, Jean-Philippe Dubulle. Justement, Christine Bravo nous expliquait qu'elle, elle dit dispose ses vierges un petit peu partout. Il est des collections qui sont toutes petites. On a collectionné des pins ou des cartes téléphoniques. Et puis parfois, il y a des collections qui prennent de la place aussi.
Ah oui, des collections qui prennent de la place et qui entraînent avec elles un orage dans les ménages. Puisque ça aussi, on l'a demandé aux collectionneurs actuels.
Ouais.
Alors ceux qui ont déjà été en couple, on leur a demandé, est-ce que au sein de votre foyer, d'où la dimension couple, est-ce que vous êtes déjà disputé en raison du fait que votre collection prend trop de place dans votre logement? Donc ça, un quart quart des collectionneurs dans leur couple sont un jour disputés à cause de ça. 20% sont disputés à cause de l'impact que ça pouvait avoir sur la déco. Voilà, si c'est partout, dans toutes les pièces, etc.
Ça dépend de l'objet qu'on collectionne, quoi. Enfin, les vierges de Christine sont magnifiques. Enfin, pour d'autres, ce serait peut-être pas très joli, mais enfin voilà.
En tout cas, c'est présent.
Mais c'est très présent. Voilà, mais parfois, il y a des collections qui sont très belles, par exemple.
Plus discret, moins
esthétique.
Et voilà. Et donc, on a la place, on a la déco, on a l'argent. Pareil, environ 20% des collectionneurs en couple sont déjà disputés à cause de ça. On en parlait plus tôt dans l'émission. Et aussi, 17% sont disputés à cause du temps. Voilà.
Le temps qu'on consacre. Parce que, en fait, c'est hyper chronophage. Ça peut être hyper chronophage, une collection de Xavier Bonnet. On peut passer sa vie à ça.
Oui, tout à fait.
Ses week-ends, son temps libre, ses vacances.
Derrière ses écrans, le soir, le midi, dès qu'on a un peu de temps libre. Mais c'est comme toute passion, en fait. Voilà, quelqu'un qui aime le football va suivre les scores le midi, le soir, va aller au stade, va regarder les matchs. On est exactement dans une passion. Donc en fait, cette passion, elle peut effectivement à nous de la gérer. On peut très bien la gérer avec quelques heures par semaine, comme on peut la gérer en passant 10 heures dessus par jour. On est dans le même schéma qu'un cinéphile ou qu'un amateur de football.
Je collectionne les cuissardes à talons aiguilles, nous écrit Sally. Dites donc, Sally, en cuir, en vinyle, en daim, en velours, j'en ai de toutes les couleurs et de toutes les longueurs. Nous écrit-elle sur Facebook, on peut collectionner de tout.
Et oui, on collectionne de tout, oui. Mais c'est ça, c'est justement ce qui fait l'attrait, c'est ça la beauté du geste dans la collection, c'est qu'on peut tout collectionner, justement de ces cuissardes, en passant par des étiquettes caisses de supermarché, on l'a déjà vu. Voilà, on peut... Pourquoi ne pas imaginer de pas collectionner des souris d'ordinateur, des gobelets en plastique ou en carton. Enfin, je veux dire, tout se fait.
D'accord. On va se retrouver dans un instant, si vous le voulez bien. On va accueillir nos invités, enfin notre invité. Il s'agit de Guillaume. Alors lui, il collectionne pas des petites choses parce que ce sont les jeux vidéo sous toutes ses formes. On va le retrouver et puis on reprendra notre conversation. À tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL. Flavie Flamand sur RTL. Jusqu'à 15h30.
Alors, des messages évidemment qui nous sont arrivés, certains qui comprennent, d'autres qui ont du mal à comprendre justement la collection. Mireille sur Facebook, je ne collectionne rien, cela prend trop de place et le ménage. Non merci, je concentre mon énergie sur d'autres choses. Et sinon, vous êtes très nombreux à collectionner. On accueille tout de suite Guillaume sur cette antenne. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Soyez le bienvenu, pardonnez-moi, ça va être rapide, mais dis-donc, vous, c'est pas de la petite collecte, hein?
Non, nous, c'est des jeux vidéo dans toutes ses formes. Donc, ça compte les consoles, les jeux vidéo, les accessoires, les bornes qu'il y avait dans les magasins à l'époque.
Ouais.
Et un peu, voilà, les magazines et autres bizarreries.
Vous avez plus de 11 600 pièces. Où est-ce que vous stockez, par exemple, des bornes, des jeux et des consoles de vidéo?
Alors, on a la chance en Normandie d'avoir différents bâtiments, hein, et puis j'en stocke également chez mes grands-parents.
Ouais.
J'ai déjà annexé deux garages, un chalet, donc ça commence à faire beaucoup. Mais c'est ma passion, donc, et puis j'arrive à la vivre avec ma famille, donc c'est ça le plus important.
Voilà, vous la partagez, c'est-à-dire que vous ne l'imposez pas à vos proches, mais vous la partagez notamment avec votre papa.
Exactement, bah c'est toute la famille véritablement. Ça a commencé avec mon papa, avec ses petits jeux électroniques que j'ai découverts un été chez mes grands-parents en fouillant dans des tiroirs que je n'avais pas accès. Enfin, voilà, je suis un
truc
petit
interdit.
Peu
discuté
après. Et puis c'est arrivé comme ça. J'ai collectionné des petits jeux électroniques, les Game & Watch comme on appelle ça, des jeux de Bandai, des choses comme ça. Et ça a dérivé sur toute cette histoire du jeu vidéo qui, mine de rien, arrive à plus de 40 ans maintenant. C'est arrivé dans les années 70, principalement aux États-Unis au départ, et puis ça s'est exporté au Japon. Et d'ailleurs, c'est les Japonais qui maîtrisent un petit peu le plus ce marché.
Et dites-moi, c'est juste, ça prend une place de dingue, Guillaume. On parlera pas de la vie pratique, des déménagements, de ce genre de choses, mais je reçois pas mal de messages aussi d'auditeurs qui nous expliquent qu'ils ont hérité de collections et que l'objet nous survit, hein, on est bien d'accord, donc on amasse. Exactement. On collectionne toute une vie, mais comment ça se passe après? Vous avez cette idée, vous, alors c'est peut-être le fait de partager en famille qui vous rassure sur cette... Mais on s'inquiète à un moment donné pour ce que va devenir sa collection?
J'y ai pensé à plusieurs reprises, mais j'ai que 26 ans pour le moment. Donc,
oui, j'entends, mais je pense à votre papa, je pense à vos grands-parents peut-être, parce que c'est un vrai sujet. Certains nous disent, moi je ne sais plus quoi faire, quoi. Xavier Bonnet, c'est fréquent ça que certains... Est-ce qu'il faut s'inquiéter de sa collection de son vivant?
C'est pas fréquent, c'est tout le temps. Oui. C'est-à-dire que cette question se pose pour un peu pour chaque collection. Alors effectivement, des albums de timbres, ça peut s'empiler dans une bibliothèque. Et on peut se dire que ça prend pas trop de place. Mais là, du rétro gaming, évidemment.
Ouais.
Alors, des collectionneurs préparent la suite en vendant avant, en changeant de collection aussi, parce qu'il y a beaucoup de collectionneurs. Il peut y avoir des collectionneurs qui changent de collection.
Mmh.
Voilà. Et d'autres, laissent aux enfants le soin de disperser ensuite la collection ou de continuer, ce qui est quand même un petit peu plus rare.
Et Dani de nous écrire qu'elle passe son temps là en ce moment à vendre sur internet, au regard de du grand âge de son papa, les véhicules militaires qu'il collectionnait, et elle dit: j'ai des rendez-vous tout le temps, j'envoie par la poste, c'est un vrai job quoi. Et elle dit: je suis vaccinée de devenir une collectionneuse de quoi que ce soit. Jean-Philippe Dubulle, nos passions ne sont pas les mêmes. C'est intéressant parce que Guillaume nous explique que lui, bon, c'est son papa qui l'a un peu initié, et c'était ce fameux tiroir secret dans lequel il est allé, parce qu'évidemment quand c'est secret on veut y aller. Dites-nous un peu, Jean-Philippe Dubulle, les collections des adolescents.
Alors oui, on observe, en tout cas le type d'objet qu'on collectionne change grandement selon l'âge des gens. Chez les plus anciens, on a les timbres, on a les cartes postales, on a tous finalement ces choses qui sont moins présentes dans notre quotidien avec la révolution numérique. Mais chez les jeunes, j'ai envie de dire que la relève des collectionneurs est assurée, parce qu'il y a plus de jeunes, il y a plus de jeunes qui collectionnent que chez les plus anciens.
Voilà, je comprends.
C'est très important. Et de nouvelles collections, comme on le disait, que ce soit les jeux vidéo, le rétro gaming, les baskets, les sneakers.
Oh là 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 là. Alors, avis à mon fils, s'il pouvait arrêter sa collecte, ce serait sympa, la collecte de sneakers. Ouais.
Voilà, on a ça. Et on a aussi, on parlait des figurines. Alors, il y a évidemment plein de choses. On peut avoir envie de collectionner des effigies de la Vierge Marie, avoir envie de Barbie ou avoir envie de Ken. Bref, on peut avoir envie de collectionner plein de choses.
Oh, avoir envie de Ken, franchement. Et d'ailleurs, Dani, notre technicien réalisateur, collectionne les sneakers. Mon fils collectionne les figurines pop, nous écrit Christelle. Nous avons fait un pacte pour ses notes au-dessus de 18. Il a un pop. Pour les notes en dessous de 10, il a un pop en moins. Il n'a jamais eu d'aussi bonnes notes. Voilà, comme quoi ça peut faire avancer. Est-ce qu'il est des collections opportunes aussi, Jean-Philippe Xavier Bonny, parce que ça a de la valeur, ça a une vraie valeur pécuniaire. Je pense à ceux qui collectionnent sur Napoléon. C'est super tendance en ce moment.
Ah oui, c'est super tendance parce qu'on fête le bicentenaire. Et donc, effectivement, certaines personnes en profitent, certains collectionneurs en possession d'objets, en tout cas de souvenirs napoléoniens, effectivement profitent de cette période pour vendre un petit peu plus cher que d'habitude, parce que c'est sous le feu des médias, des feux des projecteurs. Et voilà, donc effectivement, quand il y a des anniversaires, souvent c'est là que ressortent certaines collections qui vont se vendre un petit peu plus cher. Maintenant, c'est pas effectivement, il y a une pièce rare restera une pièce rare, et qu'elle soit sous le feu des médias.
Est-ce qu'il y a un
médias.
Marché de la collection?
Un marché, oui, bien sûr. Oui.
Je veux dire, est-ce que certains collectionnent dans le but de faire de l'argent?
Alors oui, il y a une partie de collectionneurs qui collectionnent pour faire de l'argent. Maintenant, c'est pas du tout la majorité. C'est d'abord une passion, c'est d'abord un plaisir, c'est d'abord un loisir. Ensuite, effectivement, des collectionneurs peuvent très bien acheter un objet, en achètent un deuxième identique, et celui-ci, ce deuxième, ils vont le garder quelques années, le temps qu'il prenne un peu de valeur, s'il prend de la valeur,
d'accord,
parce que souvent
l'autre.
Les objets ne prennent pas plus de valeur que ça, et vont le revendre quelques années plus tard à un meilleur prix.
En tout cas, Guillaume, nous, on sent, quand on vous écoute, que c'est la passion qui vous motive et pas l'argent.
Mais
je vous remercie vraiment d'avoir partagé avec nous, je sais que c'était rapide.
C'était un vrai plaisir.
Et on vous salue. Où est-ce que vous êtes en Normandie?
Du côté de Bernay.
Ah, j'adore. Très bien, dans l'heure. Eh bien, on vous salue. Et voilà, vous penserez à nous quand vous irez dans vos hangars retrouver vos jeux vidéo.
Ça marche,
merci d'être intervenu sur cette antenne. À bientôt, Guillaume. Xavier Bonny, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes venu avec plein de magazines.
Plein de cadeaux.
Super. Voilà, collectionneur, chineur et tout, chez aux éditions LVA. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
Plaisir.
Merci, Jean-Philippe Dubulle. C'était super intéressant. Je rappelle que vous travaillez donc à l'IFOP, où vous êtes directeur d'études, et vous nous avez éclairé avec des chiffres très intéressants aujourd'hui. Merci à vous. Tiens, vous êtes collectionneur ou pas, vous?
Moi-même, oui.
De quoi?
Aussi, de râteaux.
De râteaux?
Non, pardon. J'enchaîne, excusez-moi.
Mais,
non, de figurines, moi aussi.
De figurines, donc ok. Merci beaucoup. Merci à vous tous pour cette heure passée ensemble. Rendez-vous demain dès 14h30. Alors, sujet d'actualité, on parlera des tanguis malgré eux. Ceux qui, pour des raisons financières, médicales, personnelles, ont dû retourner vivre chez leurs parents. Tiens, voilà un phénomène encore qui s'est accentué depuis la crise sanitaire. Prenez soin de vous. Merci pour votre fidélité. Je vous embrasse. À demain.
Flavie Flamand sur RTL.